Bienvenue à toutes et tous dans cette émission des causeries, première émission des causeries consacrée au management. Alors une discipline un peu vaste, connue de tous, mais qui a aussi eh bien, une dimension recherche que nous allons aujourd'hui aborder à l'occasion de ce premier numéro en recevant le professeur Alain Cucchi.
Bonjour.
Bonjour Alain Cucchi.
Bonjour.
Voilà, donc très heureux de vous recevoir pour cette première causerie consacrée au management et en particulier. Nous aborderons, puisque vous êtes un spécialiste des questions d'usage de numérique, de systèmes d'information, vous faites de la recherche sur ces sujets-là, et aussi vous vous intéressez à des dimensions qui vont alimenter cette conversation, puisque vous intéressez à des sujets comme le technostress, notamment, et à l'occasion de cette crise sanitaire, évidemment, nous avons de nombreux sujets à questionner. Sur eh bien, le télétravail, par exemple, qui a été d'une certaine façon contraint, qui a engagé un certain nombre de nos concitoyens à travailler de chez eux, alors que beaucoup peut-être ne le souhaitaient pas. Ça change un certain nombre d'habitudes au niveau social et sociétal que nous aborderons à l'occasion de cette causerie, qui durera, comme toutes les causeries, une trentaine de minutes.
Très bien.
Voilà. Donc, Alain Cucchi, moi je vous propose de démarrer dès à présent cette causerie qui traitera du stress et du technostress. Actuellement, donc, évidemment, le télétravail a engendré un certain nombre de changements d'habitude. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ces notions de stress et de technostress dans les organisations?
Oui, tout à fait. D'abord, il faut déjà imaginer que les technologies ont amélioré beaucoup de choses dans la vie du salarié, dans la vie du travailleur. Il a été capable d'automatiser, de rendre plus confortable un certain nombre de choses. Mais également, on pourrait considérer qu'il y a un mauvais côté, ou en tout cas un côté plus obscur associé aux technologies, notamment en termes de stress et de technostress. Donc, de ce point de vue-là, si on part un petit peu de la définition du stress et du technostress, on parlera de stress à partir du moment où il y a un organisme vivant, une plante, un individu, qui va être agressé par un agent. Cet agent peut être physique, il peut être psychique, il peut être émotionnel. Il peut y avoir différentes façons d'être agressé, mais surtout, cette agression va susciter chez l'individu un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui, d'une certaine façon, va devoir être compensé. C'est ce qu'on appellera un travail d'adaptation. Et dans le cadre du technostress, c'est justement la technologie qui, d'une certaine façon, va constituer ou en tout cas va générer des facteurs qui vont agresser l'organisme. Et là, en management, en gestion, ça va être les individus et les salariés. Il y a un élément qui est le stress en tant que tel n'est pas ni bon ni mauvais, c'est une réaction normale. Il n'y a pas forcément, en général, c'est même une situation qui est souhaitable. Il y a un élément qui va nous demander de nous comporter d'une certaine façon et on va avoir une réaction qu'on pourrait qualifier de c'est lié à différencier trois réactions. La première, c'est à partir du moment où je suis agressé, il y a une situation d'alarme. J'ai un certain nombre d'éléments qui me disent attention, il y a quelque chose qui se passe. Ça se traduit par des changements de comportement, voire même d'un point de vue physiologique. Par exemple, on va générer de l'adrénaline qui va nous susciter, qui va nous donner peut-être un coup de boost et qui va nous permettre de réagir par rapport à l'élément agresseur. Puis, ça peut arriver aussi que la situation, l'agression perdure. Et à ce moment-là, ben, on va rentrer dans une phase de résistance. Donc là, c'est quand l'agression, elle est installée dans le temps. Et donc, on va devoir justement à ce moment-là adapter nos comportements. Et dans la phase de résistance, on va devoir d'une certaine façon adopter des comportements spécifiques qui vont nous permettre de durer. Notamment, c'est cette notion temporelle qui est importante. Et à la fin, il y a la phase épuisement. On l'a souvent entendu parler sous un autre terme. Par exemple, on parlera de burn-out, où la personne a l'impression d'être consumée de l'intérieur par son travail, elle ne peut plus faire face, elle s'effondre, toutes ses ressources s'effondrent et elle n'est plus capable de faire face aux exigences qui sont dans son travail. Voilà.
Bien, donc ce sont évidemment des symptômes qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les organisations. Beaucoup de personnes se plaignent d'ailleurs d'une certaine souffrance liée à l'utilisation de ces technologies qui quelquefois entraînent un rythme infernal, une impression d'avoir une obligation de ne jamais déconnecter. Ce stress, il est observable, vous le mesurez au travers d'un certain nombre d'instruments de mesure, j'imagine.
Tout à fait, oui, nous avons des. Il y a des questionnaires type, alors il y a des éléments factuels, on pourrait qualifier de factuels, qui ne sont pas tout le temps facilement, on ne peut pas forcément les utiliser facilement. Par exemple, on pourrait mesurer certaines hormones ou il y a des comportements bien particuliers, par exemple, l'absentéisme est un signe factuel, en tout cas d'un malaise. Mais nous, dans nos disciplines, on a rarement accès à ce genre de choses, donc on passe par des questionnaires qui ont été établis, qui sont des questionnaires standards. On parlera d'échelle de mesure. En fait, ce sont des questions standards qui nous permettent de mesurer une expression. C'est exprimé par le salarié. Il va exprimer son niveau de. Alors, il y a différents questionnaires sur la tension, sur le stress, sur le burn-out, qui sont trois formes un peu différentes de stress.
Bien, donc c'est un sujet ô combien important aujourd'hui, on le voit. Et donc, évidemment, lorsqu'on rentre dans cette phase de résistance, elle peut conduire à l'épuisement professionnel. Et donc, il faut être vigilant. Il y a un certain nombre de signes, de symptômes qui alertent, qui peuvent alerter soit la personne, l'acteur, soit le management, l'encadrement aussi. Il y a des signes évidents dont on reparlera plus en profondeur à l'occasion du déroulement de cette émission. Alors, cette émission s'inscrit dans une série, hein, on ne l'a peut-être pas suffisamment précisé au départ, mais il y aura plusieurs numéros qui aborderont ce sujet-là. Là, on dresse un panorama, finalement, de ces questions de stress et de technostress. Et il est important que chacun puisse en prendre conscience. Alors, si maintenant on s'intéresse justement aux différents facteurs de technostress, il semblerait qu'il y ait des facteurs plutôt liés à la technologie, des facteurs liés aux usages, et qu'on retrouve, hein, dans un certain nombre de modèles de recherche vraiment des études assez précises sur ces questions-là.
Oui, en fait, ces études vont s'inspirer de différentes conceptions en fait, du stress. On a les auteurs qui sont en général les auteurs qui viennent de la psychologie, puisque ce n'est pas directement en management qu'on s'est intéressé à ça. On a finalement profité de l'apport d'auteurs qui se trouvent en psychologie et on applique ces éléments-là en management. Donc nous avons différentes conceptions du stress. La première conception qu'on pourrait qualifier, c'est celle de Karasek, qui, d'une certaine façon, va opposer deux éléments. Il considère que la pression mentale, donc le stress, ça provient d'un déséquilibre entre deux éléments, entre des exigences qui se trouvent dans la situation de travail. Alors, exemple d'exigence. La quantité de travail, la fréquence de travail, tous ces éléments qui vont nous demander finalement qui vont constituer des contraintes, c'est pour ça qu'on l'appelle exigence. Et en face, quel est le niveau de contrôle exercé par l'individu? Donc c'est dans ce rapport entre exigence et contrôle, s'il y a un déséquilibre trop important, à ce moment-là, on va être en situation de stress. Un exemple très précis. On peut demander à une personne un certain nombre de tâches, mais à partir du moment où on va lui demander des tâches qui sortent de ses qualifications et qu'on lui met une pression temporelle importante, elle va se dire, mais je ne suis pas capable de faire ça. Et à ce moment-là, il va y avoir un déséquilibre dans son psychisme et ce déséquilibre va générer du stress. Donc ça, c'est la première conception. On comprend bien que c'est finalement cet équilibre entre les exigences au travail. Et derrière cette exigence, il y a beaucoup de formes d'exigence et les moyens de contrôler ces exigences. À partir du moment où on a un équilibre, même si les exigences sont très élevées, mais si la personne a beaucoup de ressources pour faire face et de contrôler la situation, tout se passera à peu près bien. Inversement, on peut avoir très peu d'exigences, mais si la personne a très peu de ressources, que ce soit dans ses connaissances ou dans ses pratiques ou dans son moyen d'exercer son activité, à ce moment-là, elle pourra avoir du stress. Donc ça, c'est la première conception. La deuxième conception est plus centrée sur l'individu. Ça va être sur le déséquilibre, d'une certaine façon, entre l'effort que l'individu a le sentiment de fournir et les récompenses liées à ces efforts. Alors, à partir du moment où l'individu a vraiment un déséquilibre entre ces deux dimensions-là, c'est aussi une source de stress. Alors évidemment, c'est une source d'injustice, puisqu'il a le sentiment de fournir beaucoup d'efforts, il n'est pas être forcément rétribué en rapport avec ses efforts. D'ailleurs, les efforts consentis, c'est évidemment le temps de travail, mais ça peut être l'activité, l'investissement, l'engagement qu'il a dans l'organisation. Et de l'autre côté, nous avons les récompenses qui peuvent être à la fois des récompenses numéraires, ça c'est peut-être ce qui est le plus tangible, le plus visible. Mais on a aussi tout un tas de récompenses et qui ont des caractères symboliques. Donc là, on va plutôt vers les systèmes de reconnaissance finalement. L'individu, il faut qu'il se sente reconnu. Et on a tout un arsenal qui nous permet de reconnaître ou non ce que fait l'individu. Donc ça, c'est les deux très connus. En ce qui me concerne, moi, il y a le troisième qui me paraît peut-être le plus intéressant, qui met vraiment l'accent sur l'individu. En se disant que, en partant du principe, comme je vous l'ai exposé, le stress n'est ni bon ni mauvais, mais en fait, l'individu a un rôle. Et nous ne sommes pas forcément égaux là-dedans, on y reviendra. Mais en tout cas, l'individu, il doit, d'une certaine façon, va apprécier la situation d'une certaine façon. Et en fonction de son appréciation, il pourra ou non générer du stress. Donc c'est ce qu'on appelle la vision transactionnelle. Donc c'est finalement, il y a un environnement, il y a un individu. Et dans la transaction entre l'environnement et l'individu, la perception de l'individu, l'interprétation qu'a l'individu, va être plus ou moins à la source du stress. Voici à peu près les cadres théoriques classiques, en tout cas dans le cadre du stress en psychologie. Après, il y a eu d'autres travaux qui ont été développés, notamment associés au technostress. Et là,
Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le panorama, pour les personnes qui nous regardent, vous avez les références des auteurs, puisqu'évidemment, à chaque fois, derrière, il y a toute une littérature scientifique auquel il faut se référer, auquel vous vous référez, évidemment, pour construire les nouveaux modèles de recherche.
Ah oui, alors ça c'est une démarche scientifique classique, c'est-à-dire qu'on a une vision cumulative de la connaissance. On dit toujours, les modèles, les théories ont été construits par un certain nombre d'auteurs de référence, et on s'appuie sur ces auteurs-là pour nous, à chaque fois, apporter une pierre en se disant, voilà, par rapport à ce qui a été déjà fait auparavant, voilà ce que nous on peut apporter. Donc, quand vous lisez de la littérature scientifique, vous avez toujours les auteurs qui vous permettent finalement de revenir aux sources si vous le souhaitez, et puis d'apprécier finalement l'apport spécifique de l'auteur ou de la recherche ou de l'ouvrage que vous êtes en train de consulter. Donc c'est pour ça que vous voyez sur les chaque fois que j'expose un modèle, un nom, une référence, une date, et vous pouvez à ce moment-là aller chercher les auteurs, en tout cas les travaux de ces auteurs-là.
Pour pouvoir lire
Oui.
les travaux des auteurs, ça fait partie de la littérature scientifique accessible en général via les éditeurs ou de façon libre, puis qu'il y a aussi la possibilité de retrouver ces articles de façon libre. Donc, on voit que là, le stress donc, est quand même lié, donc peut être lié aussi à l'organisation, qu'il peut y aussi y avoir des stress qui peuvent être plutôt favorables à l'action, à l'activité, d'autres qui peuvent être, pour le coup, pénalisants pour l'activité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc il y a un certain nombre de facteurs de technostress qui convient d'identifier, de reconnaître et qui sont largement étudiés aussi dans la littérature.
Tout à fait. En fait, nous avons maintenant, en fait, les premiers travaux remontent à peu près aux années 90, au siècle dernier. Alors, ça fait un peu ancien. Mais on a commencé à se rendre compte que finalement, c'était assez. L'usage des technologies avait comme tout, finalement, c'est un peu comme la langue d'Ésope. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et on ne peut pas considérer le discours, à mon avis, qui était un peu dominant en disant la technologie, c'est bien, c'est utile, c'est l'outil parfait. Il y a des aspects négatifs. Et il y a eu des travaux, effectivement, dans le domaine du technostress. Alors, quand je parle de technologie, c'est la technologie de l'information et de la communication. Donc, tout ce qui relève de l'informatique, des réseaux et toutes les évolutions qui ont été apportées, notamment en ce moment, il y a beaucoup de travaux sur les technologies nomades, sur les outils d'automatisation. Donc là, par exemple, un travail qui a été clairement identifié dans ce sens-là, c'est le travail de Ayagari en 2011, qui a un apport un peu particulier puisqu'il différencie deux choses. Il montre que d'un côté, nous avons l'attention, nous avons le stress, mais il y a deux aspects. Il y a ce qui est lié aux caractéristiques de la technologie et ce qui est lié aux usages qu'on en fait. Et cette distinction, je pense que c'est vraiment l'apport principal de ce papier, puisqu'il montre que, par exemple, les caractéristiques des technologies vont avoir un effet indirect dans le modèle sur l'attention, notamment sur le stress. Alors, il distingue trois choses. les caractéristiques en termes, alors, usability en anglais, mais utilisabilité, je ne sais pas si on peut vraiment l'utiliser en français, mais bon, on va reprendre ce terme-là. Identifie par exemple, est-ce que la technologie est utile en termes les pratiques professionnelles? Est-ce qu'elle est complexe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir au niveau de connaissances? Est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans... Est-ce que c'est difficile à comprendre l'utilité de la technologie? Et est-ce qu'elle est fiable? Ça, ce sont trois caractéristiques qui permettent de... Donc ce sont ces celles qui sont ici. Ce sont ces caractéristiques-là qui permettent de finalement de caractériser la technologie. Ces éléments-là peuvent, d'une certaine façon, indirectement affecter et générer du stress. Alors nous avons également, en ce qui concerne en termes de caractéristiques de technologie, des technologies qu'on pourrait qualifier d'intrusives.
Intrusive, ouais.
C'est-à-dire que, alors eux, en anglais, ils ont appelé ça présentéisme et anonymity. Présentéisme, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être toujours présent. On est toujours, on est joignable n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Et donc finalement, cette condition-là, c'est pratique. Mais en même temps, c'est aussi stressant en se disant, mais on ne peut pas souffler. On n'a aucun moment pour soi, on n'a aucun moment pour passer d'une tâche à l'autre, puisque finalement, on est tout le temps joignable. Et voire même, il peut y avoir un effet pervers, c'est-à-dire que si vous décidez de ne pas être joignable, ça peut être mal interprété. En disant, mais tiens, il ne veut pas qu'on se connecte, il veut pas, il ne me répond pas. On ne comprend pas pourquoi on ne répond pas. Donc il y a des effets assez pernicieux.
Effectivement, très difficile de préserver une vie privée, par exemple.
Par exemple.
Sans sentiment d'être en permanence connecté. C'est
connecté.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Pas toujours. Voilà. Toujours connecté, toujours en lien avec les autres, toujours connecté au système. Et l'organisation ne comprend pas forcément qu'on ne réponde pas aux sollicitations. Donc ça, c'est... On rentrerait dans des conditions d'usage. Et là, il faudrait discuter en interne utiliser les outils.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on évoque effectivement les caractéristiques des technologies qui peuvent engendrer du stress. Évidemment, ça doit être pris en compte par le management dans les organisations. Voilà. Mais pour le coup, il faut qu'ils en aient la connaissance.
Il faut qu'ils en aient conscience.
Conscience, voilà. Il faut conscientiser ces problèmes.
On voit par exemple des pratiques, puis la loi aussi impliquer ça. On voit des pratiques en disant, vous n'êtes pas obligé de répondre après, si vous recevez ce courrier électronique après telle heure, vous n'êtes pas obligé de répondre. Voir des pratiques qui, dans certaines sociétés, qui ferment. Alors, ils empêchent l'accès au serveur de l'entreprise et au serveur de messagerie à partir d'une certaine heure, pour justement accorder des respirations aux salariés qui puissent avoir du temps pour lui et qu'il ne se sente pas obligé de répondre à toutes ces sollicitations. Un autre aspect qu'il y avait également en termes de caractéristiques d'intrusion, c'est l'anonymat, c'est-à-dire est-ce que la technologie permet mon anonymat? Et effectivement, les big data et les évolutions actuelles montrent que on laisse des traces absolument partout. Et donc, d'une certaine façon, on n'est pas en situation de garantir l'anonymat. Et ça, c'est aussi un élément de stress, parce qu'en disant, ah, je suis en train de faire ça, on peut voir que je le fais, donc ça peut être mal interprété. Ça peut être aussi, entre guillemets, un peu dévoyé, par exemple, des outils qui sont liés à la géolocalisation et qui montrent qu'on peut finalement tracer le comportement d'un individu, savoir où il est allé, où il n'est pas allé, dans quelles conditions, à quelle heure. Et tout ça, c'est aussi, d'une certaine façon, stressant en disant, je suis toujours, j'ai Big Brother au-dessus de moi, j'ai toujours quelqu'un en train d'observer ce que je fais. Dernier élément qui intervient également en termes de caractéristiques des technologies, c'est le rythme de changement. C'est assez compliqué. D'ailleurs, bon, au bout d'un certain temps, on abandonne. De suivre toutes les technologies, toutes les dernières versions, il y a un tel foisonnement. Et ça aussi, c'est un facteur de stress, parce que finalement, le salarié, il est sans cesse remis en question dans ses connaissances. À partir du moment où il a l'impression de maîtriser un outil, hop, on lui change de version, on va lui changer le système, puis il se dit, ah, il faut que je me réadapte. Et ça aussi, c'est une source de stress, c'est-à-dire que le rythme d'évolution de la technologie est susceptible de générer du stress. Donc ça, ce sont des caractéristiques techniques, si on regarde. C'est la technologie qui évolue plus ou moins vite, qui garantit plus ou moins l'anonymat. Donc toutes ces caractéristiques-là, elles influent indirectement, puisque finalement, ça dépend de ce qu'on en fait. Et la littérature, notamment Yagari, montre qu'il y a un certain nombre d'usages qui sont associés indirectement à la technologie, qui vont rentrer directement qui vont influencer directement le stress. Alors ces éléments-là, je vais oui, je peux les détailler, je vous les encadre ici. Excusez-moi,
Oui,
c'est
parce que
pas très
du coup,
bien.
c'est important de faire le lien entre ces caractéristiques observables des technologies et le stress qui peut y être associé.
Voilà. C'est-à-dire que la technologie en tant que telle, elle est neutre. C'est un peu comme le nucléaire, on peut en faire le meilleur des usages ou le pire. Mais associé à certaines pratiques, à ce moment-là, ça va générer du stress. Et donc la littérature, notamment Yagari, nous montre que, par exemple, un usage, le fait de ramener des outils chez soi, ça génère du conflit dans la famille. Alors on est en plein dans le thème du télétravail.
Absolument.
C'est-à-dire que la frontière vie professionnelle et vie privée, on a une telle porosité dans la frontière qu'il n'y a plus de frontière. D'où, d'ailleurs, bon, il y a beaucoup d'images comiques. On voit des personnes qui sont chez elles en train de travailler, alors avec la cravate et la chemise dessus, puis dessous, elles sont habillées beaucoup plus simplement. C'est un des éléments qui est à un niveau d'influence qui va influencer assez fortement le stress, parce que on est tout le temps en train d'osciller en se disant, le temps que je consacre à ma vie professionnelle, je ne le consacre pas à ma vie privée. Qu'est-ce qui se passe? Ma vie, mes enfants, ma famille, mon couple vont en pâtir. Et le fait de ramener chez soi, alors oui, c'est une flexibilité, mais en même temps, on va être présent physiquement, mais on va être absent socialement. Je pense que beaucoup de personnes ont expérimenté ça en disant, mais oui, bon, tu es avec nous, mais
Mais
tu étais
tu n'es
sur ton
pas là en
ordinateur,
fait.
mais tu n'es pas là.
Tu es là, mais tu
Et
n'es pas là.
voilà, si tu es là, mais tu n'es pas là. Donc ce sont des symptômes du conflit travail-famille. L'autre aspect qui est également ici, c'est l'invasion de la vie privée. Donc le fait qu'on puisse savoir ce qu'on fait. C'est que il y a un regard extérieur sur ce qu'on fait. Et ça, ce n'est pas forcément souhaitable. Assez, bon, dans les entreprises, on peut être plus ou moins regardant, on voit plus ou moins contrôler les usages. Mais c'est vrai que la technologie va permettre de savoir vraiment, de certaine façon, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, c'est pas forcément agréable. Alors, c'est de plus en plus réglementé, notamment au travers des lois sur le RGPD, le
RGPD,
règlement
entre
général sur la
autres,
protection des données, qui va justement encadrer ces éléments-là. Ils essayent de faire en sorte que on puisse protéger la vie privée des gens. Un des éléments qui est le plus générateur de stress, c'est justement la surcharge de travail. On se rend compte que le numérique, qui automatise, donc qui nous décharge de beaucoup de tâches d'un certain côté, en même temps, il nous génère beaucoup de travail. Et notamment, ben, parce qu'il fluidifie les échanges, parce qu'il fluidifie les communications, mais finalement, les tâches arrivent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et finalement, on se rend compte qu'on est submergé par le travail. Nous en parlions tout à l'heure de façon un peu sous forme humoristique, mais on n'est pas si loin que ça. Quand on observe notre boîte aux lettres et qu'on voit toutes les tâches à réaliser, parce que chaque courrier que l'on reçoit, c'est une tâche à réaliser. On demande un avis, on demande une analyse, on rédige un dossier, de faire telle chose. Et puis finalement, bah, c'est notre chaîne de travail, quoi. C'est une chaîne virtuelle, mais c'est une chaîne de travail.
Cette impression que ça s'impose aussi à soi, c'est un flux ininterrompu d'activités qui s'impose et qui génère donc
Et
du
c'est
stress.
même, des fois même, on se dit, plus je réponds vite à ces sollicitations, et plus on va me solliciter. Et donc ça devient un peu, on se dit, où est-ce que je mets le curseur là aussi? Donc
Où mettre le curseur? Donc là, il y a.
c'est très compliqué à gérer, et cette charge de travail qui est liée aux technologies, qu'on soit présent ou non, c'est lié à ces éléments-là. L'ambiguïté de rôle, c'est un aspect peut-être un peu différent, c'est-à-dire que on est des fois amené, on a un caractère opérationnel, on est par exemple un commercial ou on est un responsable un manager, et on doit prendre en charge des aspects techniques, on doit prendre en charge des éléments associés aux technologies. Donc finalement, on se dit, ben finalement, je prends en charge des activités qui sont liées au numérique, alors que je ne fais pas mon métier. Si par exemple, si j'appliquais cette situation à mon cas, Je suis assez régulièrement amené à régler des problèmes techniques, mais je ne fais pas mon métier de chercheur, je ne fais pas mon métier d'enseignant. Et du coup, je me dis, bon, le temps que je passe à ça, ben, je ne le passe pas à autre
Autre
chose.
chose.
Et du coup, ça, c'est aussi un élément de stress. Et enfin, l'élément qui a aussi un effet, c'est la partie insécurité au travail. C'est-à-dire que les individus se sentent remis en cause, alors soit parce que, par exemple, il y a des personnels qui sont plus qualifiés ou qui viennent d'être formés, qui arrivent en entreprise et qui savent faire un certain nombre de choses. Et les salariés qui étaient précédemment là, qui ont un certain âge, se disent ben, moi, je ne sais pas le faire. Donc finalement, la technologie va remet en cause mon travail, me remet en cause mon emploi. Et là, on s'en rend compte que c'est que l'automatisation génère d'un côté de nouvelles activités, donc de l'emploi, mais détruit aussi par ailleurs de l'emploi. Donc ce sentiment-là est aussi un facteur de stress.
Alors, Alain Cucchi, donc on constate qu'effectivement ces caractéristiques engendrent évidemment ce que vous appelez des stressors, donc des facteurs de stress ou des éléments qui vont générer du stress chez les individus. Est-ce que nous sommes tous égaux eh bien devant ce technostress?
Ben, non, mais je dirais que globalement, sans déflorer un peu anticiper sur les émissions suivantes, globalement, on a des moyens pour limiter ces éléments de stress. Et ces éléments-là dépendent de deux grandes dimensions. La dimension organisationnelle, on se rend compte que finalement, l'organisation n'est pas neutre. C'est-à-dire que l'institution, par ses règles, par ses fonctionnements, par ses valeurs, par son état d'esprit, peut d'une certaine façon, mettre à disposition des salariés des ressources pour limiter ce stress, en tout cas ce technostress, notamment dans l'assistance qu'on peut avoir auprès des salariés. Donc ça, c'est la partie organisationnelle. Elle peut accompagner le salarié et mettre en place des pratiques pour diminuer le niveau de stress ressenti. L'individu aussi, d'une certaine façon, comme on l'a rapidement évoqué, l'individu, le stress, il intervient parce que l'individu à une interprétation de l'élément qui l'agresse. À partir du moment où il va interpréter, il va y avoir une part d'interprétation, les individus sont différents, donc il va y avoir des interprétations différentes. Et s'il y a des interprétations différentes, on aura des niveaux de stress différents. Donc l'intérêt, c'est de s'intéresser justement à la dimension, également, au-delà de la dimension organisationnelle, à la dimension individuelle. C'est-à-dire s'intéresser à l'individu, qu'est-ce qui fait que d'une certaine façon, on peut avoir certaines caractéristiques des individus qui vont, d'une certaine façon, diminuer son niveau de stress, ou au contraire, qui vont augmenter, qui vont être plus sensibles à cette dimension de stress. Donc on a effectivement, on n'est pas égaux selon l'environnement, l'organisation dans laquelle on se trouve, mais également en tant qu'individu et dans ses caractéristiques propres.
Eh bien, Alain Cucchi, ce sera le mot de la fin, si je puis dire. Donc, pour les prochaines émissions, on aura l'occasion d'approfondir ces notions de que peut mettre en œuvre l'organisation pour réduire ce potentiel stress chez les salariés. Et puis aussi, au niveau individuel, quelle pratique, quelle attitude, quelle posture peut avoir le salarié, l'acteur dans l'organisation, pour aussi être moins sujet à ce technostress. Donc, je vous souhaite de poursuivre de vos travaux de recherche. Et puis, je propose à l'ensemble de nos éditeurs de nous retrouver très prochainement pour une deuxième causerie consacrée eh bien, au stress et au technostress dans les organisations. Au revoir, Alain Cucchi.
Au revoir.
Et à très
Au
bientôt.
revoir. Merci de m'avoir invité. À bientôt.
À
Au
bientôt.
revoir.
Au revoir.